regarde en train de faire ça. Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait.
Ouais.
Comme la maternité, la paternité ou l'enfance, la grand-parentalité a une histoire. Avec nous, Vincent Gourdon, pour nous parler de cette histoire. Est-ce que les grands-parents ont toujours été appelés papy, mamie, grand-mère? Comment est-ce que a évolué le nom au cours de l'histoire?
Alors c'est un peu difficile de répondre pour les périodes très anciennes, car nous manquons de témoignages évidemment sur les pratiques quotidiennes pour, disons, avant le XVIIIe siècle. Mais pour ce qui concerne le XVIIIe, XIXe, XXe siècle, il y a une très claire évolution. En effet, dans les milieux aristocratiques, par exemple, il était hors de question d'utiliser ce genre de nom auprès de ses grands-parents, qui étaient des patriarches respectés, que l'on devait honorer d'un titre hiérarchique.
Et comment est-ce qu'on les appelait ?
On pouvait les appeler... par leur monsieur mon grand-père, monsieur, il y avait des termes très respectueux, parce que dans les logiques hiérarchiques aristocratiques, on ne peut pas utiliser des termes qui rappellent la familiarité populaire ou bourgeoise. Au XIXe siècle, on va dire que dans les milieux bourgeois, à haute bourgeoisie, on a plutôt tendance à utiliser bon papa, bonne maman. Et dans les milieux populaires, au contraire, on est sur pépère, mémère, mamie, papy, non, évidemment, c'est 20e, c'est des termes anglais, ça ne correspond pas. Il y avait aussi le fait que souvent certains étaient parrains ou marraines, et donc on pouvait les appeler comme parrains ou marraines. Au 20e siècle, on peut dire, de façon schématique, qu'il y a une certaine évolution vers une familiarité. Donc par exemple, bon papa, bonne maman, disparaît, à part dans quelques milieux très restreints. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les pépés, mémés, pépères, mémères, qui sont en fait très courants dans les milieux populaires, sont abandonnés, on va dire, dans les classes moyennes et dans les générations actuelles de grands-parents, les jeunes générations, qui trouvent justement que cela fait vieillot ou populaire. Et on a de plus en plus, plusieurs études l'ont montré, des appellations qui sont des appellations personnalisées, correspondant à des termes qui valorise un aspect de l'individu concerné.
Par exemple,
si un grand-père fait du vélo, on l'appellera papy vélo. Si une grand-mère
est douce,
ce sera mamie doux, etc. Donc des termes qui sont beaucoup plus personnalisés, qui sont moins des termes d'institution, c'est-à-dire qui sont liés à une personne particulière et non pas à un rôle spécifique à l'intérieur de la famille. Cette tendance correspond bien, on va dire, aux nouveaux grands-parents des générations de 50 à 70 ans actuelles qui ne veulent pas être confondus avec les grands-parents soi-disant de jadis.
Alors les grands-parents de jadis, c'était des grands-parents gâteaux. Est-ce que le grand-parent a toujours été le grand-père ? Le grand-père a-t-il toujours été un grand-père gâteau ?
Alors, c'est une excellente question, je dirais non. Parce que le terme de grand-père gâteau, de toute façon, est apparu assez tardivement, historiquement. On peut dire qu'il date de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'avait pas forcément de très bonnes relations avec un grand-père très gentil. Encore une fois, il faut penser à un point, c'est que les systèmes familiaux, qu'ils soient populaires ou aristocratiques, sont différents. Que les sociétés paysannes pouvaient être très différentes. Dans certaines, le grand-père pouvait être chef de famille, dans d'autres, il ne l'était pas, et il était parfois accueilli à la maison, dans une situation de subordination. Donc, de toute façon, le système était très différent selon les lieux et selon les classes sociales. Mais on va dire que le modèle culturel de la grand-parentalité gâteau s'est imposé à partir du XVIIIe siècle, au moment de la philosophie des Lumières.
Mais pourquoi ? Ça veut dire qu'avant, le grand-père n'était pas un grand-père cadeau ? Pourquoi ? Ça veut dire qu'avant, le grand-père n'était pas un grand-père gâteau ?
Alors, il pouvait l'être personnellement. On pouvait très bien, comme aujourd'hui, avoir un bon grand-père, un méchant grand-père, un grand-père agréable, un grand-père pas agréable, avoir des relations ou pas avoir de relations, peu importe. La question, c'est de savoir s'il y avait un modèle culturel qui correspondait à ça. Avant le XVIIIe siècle, mon hypothèse, à titre personnel, je pense l'avoir prouvé dans mes travaux, c'est que le seul modèle disponible culturellement pour la grand-parentalité était un modèle patriarcal. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens se comportaient comme des patriarches.
Qu'est-ce que c'est un modèle patriarcal ?
C'est-à-dire que la personne était considérée comme un supérieur à l'intérieur de la famille, un supérieur parce qu'il était l'ancêtre, les ancêtres ayant une fonction d'autorité dans le système familial, on s'adressait à cette personne comme à un supérieur qui donnait des ordres, que l'on devait respecter, qui n'était pas une personne avec laquelle on avait une relation d'intimité ou de complicité et surtout d'égalité affective. Le grand-père gâteau, au contraire, est une personne qui a une relation personnalisée d'égalisation intergénérationnelle, puisque le grand-père gâteau et le petit enfant sont dans une relation de complicité et d'amitié.
D'un côté, on ne pouvait surtout pas sauter sur ses genoux, de l'autre, oui.
Absolument. Il est hors de question pour un petit-fils, par exemple du roi Louis XIV, de sauter sur les genoux de son grand-père. Enfin, on imagine bien que pour la royauté, mais c'est pareil pour des paysans des Pyrénées au XVIIIe, XIXe siècle. À partir du moment où ils sont, disons, chefs d'exploitation, à partir du moment où ils possèdent le pouvoir, y compris sur leur fils, dans certains milieux sociaux et dans certains milieux paysans, il est hors de question d'avoir une relation particulièrement complice. Il se peut, évidemment, qu'il y ait des relations personnelles plus intenses, mais elles ne sont pas dictées comme un modèle normatif.
Et la grand-mère ? Est-ce que la grand-mère a toujours été une bonne maman, attentive à sa famille plus qu'à elle-même ?
Historiquement, certainement. Les femmes, de toute façon, ont historiquement eu un rôle beaucoup plus familial que les hommes. D'une certaine manière, elles étaient cantonnées à la sphère familiale et à des fonctions familiales. Bien évidemment, ce que je dis est un peu schématique, étant donné qu'elle travaillait pour la plupart du temps dans les sociétés anciennes, et c'est surtout au XIXe siècle qu'il y a une opposition à l'idée de la femme qui travaille. Mais le destin féminin est d'abord familial. Alors la grand-mère est évidemment une personne qui, ayant accompli son destin procréateur en tant que femme, se retrouve dans une situation assez complexe. Elle doit avoir un rôle dans la famille, mais ce rôle n'est plus un rôle de mère. Et donc, elle va avoir une position un peu complexe. Il ne faut pas qu'elle soit non plus la mère de la mère, qui donne des ordres à la mère elle-même en charge des enfants, mais elle va avoir une fonction familiale d'aide, de garde, de soutien dans les situations compliquées, par exemple le travail féminin, etc. etc. Et son destin n'est absolument pas un destin d'individualisation. Il n'y a pas d'idée dans les sociétés anciennes de destin personnel, de réalisation de soi, pour faire simple, de la grand-mère, évidemment.
Est-ce qu'elle tire un avantage ?
Alors, elle est respectée, comme dans toutes les sociétés de type patriarcal, en général, avec l'âge, avec la réalisation de la maternité, on acquiert un statut dans lequel on obtient une forme de respect. Maintenant, quel est l'avantage d'être une grand-mère dans les sociétés anciennes ? Je dois avouer que, comme en général dans toutes les sociétés anciennes, le fait d'être une femme n'était pas particulièrement un avantage dans la vie. Le fait d'être vieux, si on n'avait pas le pouvoir, ne l'était pas forcément non plus. Mais il peut arriver dans certaines sociétés, comme par exemple dans les milieux particulièrement hiérarchiques, on va dire l'aristocratie, ou les milieux paysans où il y a cohabitation. Ce n'est pas le cas de tous les milieux paysans. Mais dans ceux où il y a cohabitation et direction par la génération ancienne de l'exploitation familiale, la grand-mère peut, à partir du moment où elle est veuve en tout cas, se retrouver en situation de pouvoir dans le système familial.
Est-ce que les grands-parents ont toujours gardé leurs petits-enfants ?
Absolument, à partir du moment où ils étaient vivants évidemment, ce qui était le cas, on va dire, pour la moitié des grands-parents à la naissance de leurs petits-enfants au XVIIIe siècle. Donc on voit que beaucoup de grands-parents avaient l'occasion d'avoir des contacts avec leurs petits-enfants et au moins pendant la prime enfance avaient sans doute des relations assez importantes avec eux. Ils aidaient évidemment. Pourquoi aidaient-ils ? Tout simplement parce que ce que l'on oublie souvent, et je l'ai dit tout à l'heure, dans les sociétés anciennes, les femmes travaillent. Elles ne travaillent pas forcément très à l'extérieur de leur domicile, quoique on a beaucoup exagéré le caractère fixe de la mère dans les sociétés anciennes. Mais il faut bien que quelqu'un se charge des enfants lorsque la mère est en train de travailler au champ, lorsqu'elle est en train d'aller au marché, lorsqu'elle est en train de vendre ses produits dans les villes, etc., etc., de traire ce que l'on veut, etc. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. À partir de là, il y avait forcément une aide. Cette aide pouvait être faite par l'ensemble du système familial. On est dans des sociétés où il n'y a pas forcément de séparation complète entre les rôles, par exemple, collatéraux et...
Il y a une grande socialisation.
Oui. On est dans les sociétés anciennes paysannes, l'ensemble des adultes du village ont une fonction d'éducation plus ou moins forte sur tous les enfants du village.
Chacun a son rôle, chacun a son mot à dire.
Chacun a son mot à dire. N'importe quel adulte du village peut punir, peut sévir contre n'importe quel enfant du village à partir du moment où il fait des bêtises, et on peut confier un enfant. On est dans des sociétés où on confie beaucoup plus l'enfant les uns aux autres. Alors les grands-mères, bien évidemment, si elles sont vivantes, sont les premières concernées. Donc on gardait les enfants. Simplement, il y avait aussi un point important, il y a beaucoup plus de drames dans les sociétés anciennes, et notamment beaucoup plus d'orphelins, beaucoup plus de migrations qui suppose une coupure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés dans lesquelles la migration ne suppose pas une coupure des générations, parce que lorsqu'on se déplace, c'est très facile de revenir beaucoup. Alors que dans les sociétés anciennes, si vous partez en ville, vous ne revenez pas tous les jours, le soir, à la maison. Donc beaucoup, beaucoup d'enfants dans les sociétés du 18e, du 19e siècle étaient confiés à temps plein à leurs grands-parents. Parce que la mère travaillait à la ville, parce que la mère était nourrice sur lieu, par exemple. Parce qu'elle travaillait, parce qu'elle était morte, parce que les parents étaient partis, etc. etc.
Quel est le rôle éducatif des grands-parents ?
Eh bien, donc, comme on peut le voir, historiquement, il y avait déjà un rôle de garde, de soutien et d'éducation même principale. Lorsque les parents étaient vivants, ils étaient souvent en charge de la prime enfance, de faire des visites dans les villages. Il y a des articles qui montrent ça pour les sociétés paysannes du début du XXe siècle en France. Souvent, ils initiaient les enfants à la culture, à la culture locale, à la culture communautaire, les visites au cimetière, les histoires, les contes, etc. Maintenant, quel était leur rôle de manière générale ? Là, on touche à quelque chose qui est plutôt de l'ordre du projet éducatif. Ce que les gens apprenaient, c'est très difficile de le savoir. Par contre, ce que l'on voulait que les grands-parents apprennent aux enfants, on peut le savoir par les textes normatifs, notamment pour la bourgeoisie du XIXe siècle. Et là, on nous apprend très clairement que ce qu'on attend des grands-parents, c'est de donner le sens de la continuité familiale, thème qui est encore aujourd'hui très présent. Donner le sens de la mémoire historique, de la nation, etc.
Aujourd'hui présent aussi ?
Aujourd'hui présent aussi, me semble-t-il, dans les familles. Le grand-père qui a fait la guerre, le grand-père qui racontera sa guerre, sa déportation dans certains milieux, ou sa guerre d'Algérie, etc., et transmet quelque chose. Les souvenirs du quotidien, etc. Le fait de placer l'enfant dans une continuité collective et familiale est un rôle important des grands-parents. Parce que ce sont les symboles du passé, on va dire, dans le système familial. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que comme ils sont des membres de la famille dans lesquels on peut avoir toute confiance, ils sont des parents qui vont avoir une fonction de socialisation morale, religieuse. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans les œuvres du XIXe siècle. Notamment, la grand-mère a une fonction d'initiation religieuse. La réalité, c'est autre chose. Mais en tout cas, par exemple, la comtesse de Ségur écrit des œuvres qui s'appellent « Évangile d'une grand-mère ». Ou Bible d'une grand-mère. Vous voyez, on est dans une thématique que l'on retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup d'ouvrages présentant le rôle des grands-parents. Là, on a une continuité historique assez intéressante jusqu'à nos jours.
Qu'est-ce que les parents d'aujourd'hui attendent des grands-parents ?
Ce que les parents d'aujourd'hui attendent des grands-parents, déjà, beaucoup d'aide pour garder les enfants, me semble-t-il. Ça me paraît un problème essentiel. Dans les jeunes générations, on confie largement les enfants aux grands-parents, non pas pour des durées longues, mais pour des soirées, des week-ends, le mercredi, etc. Donc ça, c'est un point essentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sans doute, beaucoup plus d'enfants, en proportion, sont confiés à des grands-parents dans ces conditions que dans les générations précédentes. Il y a aussi le fait qu'il y a plus de grands-parents en vie et en bonne santé. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, encore une fois, cette continuité familiale. Le fait de les envoyer en vacances chez les grands-parents, alors, aujourd'hui, c'était peut-être un peu moins vrai qu'il y a 30 ans, mais par exemple, les grands-parents étaient souvent en lien avec la campagne, ils avaient une propriété extérieure à la ville, donc on envoyait les enfants au bon air, dans la propriété familiale, je parle évidemment essentiellement de la bourgeoisie dans le cas présent. Donc il y avait cette dimension de garde, d'initiation à une réalité autre. À part ça, évidemment, on attend beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien affectif, notamment dans les cas de divorce. C'est un thème qu'aujourd'hui la sociologie aborde, qui est un thème qu'on retrouve beaucoup dans les livres qui se penchent sur le rôle des grands-parents.
Justement, aujourd'hui, est-ce qu'on n'attend pas des grands-parents qu'ils soient des facteurs d'unité et des pôles de stabilité ?
Absolument. C'est une thématique que l'on retrouve effectivement dans beaucoup dans les associations de grands-parents, notamment, hein, qui se font les défenseurs des grands-parents, comme l'école des grands-parents européens, par exemple, en France. C'est une thématique que l'on retrouve extrêmement développée dans tous les livres qui s'adressent aux grands-parents aujourd'hui. Le problème, c'est que ce modèle-là, et c'est sans doute vrai dans les générations qui viennent qui sont actuellement dans l'âge de la grand-parentalité, on peut douter que cette question soit complètement durera plus tard, car il y a un problème avec la nouvelle génération de grands-parents qui elle-même sera sans doute en situation de divorce. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir des générations qui vont arriver qui sont des grands-parents divorcés.
Alors, qu'est-ce que les petits-enfants peuvent intégrer de l'éducation de ses grands-parents ?
Eh bien, on va dire déjà une certaine forme de relativisation des phénomènes générationnels, peut-être, en tout cas un peu moins de mode, ou le sentiment que les choses peuvent être vues d'une manière différente. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'il y a ce que disent les parents, il y a ce que disent les pères générationnels des enfants, et puis il y a une autre génération qui a peut-être un autre point de vue sur le monde, c'est déjà une ouverture d'esprit. Pour le reste, les grands-parents, me semble-t-il, sont là surtout pour donner une continuité, un sentiment de la continuité, le fait que l'on s'inscrit, en tant qu'enfant, dans quelque chose qui n'est pas le simple temps présent. Il y a des choses qui se transmettent, il y a des choses dont on doit être héritier, il y a des choses qui passent à travers nous. Et ça, peut-être, c'est le rôle que les grands-parents doivent avoir le plus auprès des enfants.
Est-ce qu'ils n'ont pas aussi un rôle d'origine ?
C'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait passer l'idée à des enfants, aux jeunes générations, qu'elles sont héritières de quelque chose, les grands-parents ne sont pas forcément l'origine, mais en tout cas, ils sont le symbole de cette idée d'origine. Alors évidemment, le phénomène doit être compris de façon plus globale, c'est-à-dire que les grands-parents étant aujourd'hui très diversifiés, les phénomènes de métissage sociaux et d'origine géographique sont tels que chaque grand-parent, d'une certaine manière, incarne quelque chose de différent. On sait qu'il est évident que dans les générations à venir, on aura des grands-parents beaucoup plus variés, on va dire, socialement. Et ces grands-parents, sans doute, incarneront à la fois ce mélange et ces origines diverses.
Vous aimez vos grands-parents, Vincent Gourdon ?
Oui, j'aime beaucoup mes grands-parents, je n'en ai plus qu'un en vie. Je pense que le sujet, évidemment, a eu un vague lien avec le fait que je m'entendais particulièrement avec mes grands-parents. J'ai moi-même été gardé petit par mes grands-parents lorsque je revenais de l'école. Ils tenaient une boutique de vendeurs de vin à Paris, et après l'école, j'allais chez eux, je les aidais à la boutique, je rendais la monnaie à la caisse. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est dit, sans doute, dans ces travaux.
Vos meilleurs souvenirs avec eux ?
Sans doute, la gestion de la boutique, lorsqu'on faisait les comptes, lorsqu'on rendait la monnaie, lorsqu'on remettait les caisses de vin, les choses comme ça, avec mon grand-père qui portait les caisses. C'est des bons souvenirs, ça.
Des souvenirs de complicité ?
Des souvenirs de complicité, oui, effectivement. C'était un moment, je savais que ce moment arriverait, et c'était un moment que j'aimais bien.
Vous avez deux enfants, vous allez être un jour grand-père. Qu'est-ce que vous aimeriez être ?
J'ai encore un peu de mal, pour être franc, à m'imaginer en grand-père. Déjà, j'ai deux enfants, dont un qui est vraiment tout petit. Déjà, je vais essayer de bien assumer ma paternité avant de voir ma grand-paternité. Je pense que ce que je dis tout à l'heure sur la transmission me paraît un point important.
Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos petits-enfants ?
Une continuité familiale, le sentiment qu'ils sont inscrits dans une culture, dans un pays, dans quelque chose qui fait qu'il faut... Il faut sans doute faire passer cette idée qu'on n'est pas né n'importe où, nulle part, et qu'il y a le sens du passé à avoir. C'est-à-dire ce sentiment qu'on a, par exemple, quand on est historien, que le passé, tout à coup, on le fait revivre, qu'on en est responsable, qu'on en est le porte-parole, d'une certaine manière. Vous savez, il y a un vrai plaisir, lorsque vous êtes en train de travailler sur des sources, à faire parler des morts. Et d'une certaine manière, en tant que grand-parent, peut-être que le métier d'historien et le métier de grand-parent, de ce point de vue, peut avoir un rapport. En tant que grand-parent, je pense qu'il y aura aussi cette dimension de faire passer cette idée que le passé n'est pas complètement passé.
Est-ce que finalement, le rôle du grand-père, le rôle des grands-parents, n'est pas lié à quelque chose qui a rapport à l'éternité ?
Oui, sans doute. Ce n'est pas faux. Il y a d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lien, par exemple, avec la dimension religieuse ou civique, la culture civique et religieuse, qui était une logique qui faisait passer justement des valeurs entre guillemets éternelles à l'enfant, c'est indéniable. Le grand-parent est toujours le symbole vivant de la continuité des générations, et donc de ce phénomène d'inscription dans le temps, dans les temps. Très longtemps, pour dire les choses encore plus précisément, il n'y avait pas le mot aïeul, par exemple. C'est assez récent qu'il se soit séparé en deux. Le fait d'être un aïeul au sens des aïeux et un aïeul au sens du grand-père, ce sont deux termes qui se sont séparés assez récemment du point de vue historique. Car en fait, les grands-parents étaient d'une certaine manière la même chose que les aïeux. Donc ils étaient eux-mêmes dans une forme de continuité historique et d'héritage venu du fond des âges. Et très longtemps, ces deux termes n'avaient pas de différence. Par exemple, au XVIIe, XVIIIe, il n'y avait pas de nuance entre les deux. Ou même le terme grand-parent, par exemple, très longtemps, c'est un terme qui a désigné toutes les personnes qui étaient plus anciennes, en fait. Y compris des oncles, des tantes, des grands-oncles, etc. C'est au XIXe siècle que ça s'est séparé. Donc cette idée, c'est ce qui vient d'avant, ce qui s'inscrit dans l'éternité, dans l'origine des temps.
Le message que vous aimeriez passer à vos petits-enfants ?
À mes petits-enfants ? Eh bien, je vais y réfléchir. Pour l'instant, le message que j'ai à passer à mes enfants est déjà plus important que le message à mes petits-enfants.
Quel est-il ?
Oh, bah. D'abord, nous éloignons beaucoup de la question scientifique. Le message, fondamentalement, c'est d'abord un message de rigueur morale. De rigueur morale. Au sens des vertus. Voilà, ça me paraît un point important. Et à mon avis, en tant que grand-parent, sans doute, aurais-je une continuité avec ce rôle.
Qu'est-ce que vous entendez par rigueur morale ?
Eh bien, le sens de...
Le sens de l'autre ?
Le sens de l'autre, le sens des vertus civiques, morales, le sens...
Du bien commun ?
De ce que l'on se doit à soi-même. Du bien commun, oui, absolument. Enfin, disons, le fait que l'on est quelqu'un qui a, justement, des vertus morales à cultiver.
Pour les autres.
Pour les autres.
Pour
et
la
pour
famille.
Soi aussi, c'est-à-dire par rapport à soi-même, par rapport à sa propre vision de soi.
Et donc aussi un souhait que les familles soient de plus en plus des familles qui soient des lieux de sociabilité ?
Alors, oui, sans aucun doute. Fondamentalement, ce qui me semble le plus important, c'est moins le caractère unifié, on va dire... un peu refermée sur elle-même du milieu familial. Mais essentiellement que les familles soient un lieu dans lequel se passe quelque chose qui est fondamental dans le principe éducatif, c'est-à-dire effectivement un sentiment de ce que l'on doit à soi-même et aux autres. Et que la famille soit ce lieu aussi, il y a aussi l'école, hein, je suis un républicain, donc je ne dirais pas que la famille est le seul lieu où on peut être socialisé de façon vertueuse, mais c'est un lieu dans lequel on n'est pas dans la facilité, mais on est aussi dans l'amour, certes, mais aussi dans la transmission une forme de devoir. Et tu verras, tu trieras ensuite.
Donc, on disait quoi ?
Tu me demandais ce que je voulais faire passer comme père.
Voilà.
Comme grand-père.
Vincent Gourdon, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer en tant que grand-parent, quand vous serez grand-parent ?
La question est difficile, parce que pour l'instant, je ne suis que père, et c'est difficile de se positionner complètement en grand-père. Mais disons que, à titre personnel, je pense que comme grand-père, je ferais passer à peu près le même message, d'une certaine manière, que comme père. Au-delà de l'amour, évidemment, au-delà du fait de faire plaisir à l'autre, à l'enfant, etc., il me semble qu'il faut aussi faire passer des messages en termes de vertu, en termes de volonté d'être mieux que soi-même, d'une certaine manière, et d'être capable de s'élever d'être capable d'être pour soi-même. J'y arrive pas, il faut que je reformule. Il faut que je reformule le truc, pardon.
Je recommence.
Ouais, attends, il faut que je...
Mais moi, je vais t'interrompre.
Tu vois...
Oui, je vais t'interrompre.
Il faut que je retrouve la formule que j'avais utilisée, que tu trouvais bien.
À savoir que la famille n'est pas le lieu où on reste sur soi-même.
Oui, mais la question que tu m'as posée, il faut que la réponse aille vers ça.
Voilà, c'est ça.
Oui, ok.
Vincent Gourdon, vous serez un jour grand-parent ? Grand-père, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre ?
Eh bien, pour l'instant, je dois avouer que je ne sais pas exactement comment je serai en tant que grand-père, mais je pense que j'aurai une certaine continuité avec ce que je suis comme père. C'est-à-dire, j'imagine assez...
Le lieu de la famille, pour vous, qu'est-ce que c'est ?
Le lieu de la famille, c'est un lieu indéniablement où il y a de l'affection, il y a du plaisir, mais ça ne doit pas être simplement un lieu de transmission de l'amour
et de l'affection
et du plaisir. Ce doit être aussi un lieu, si possible, où passent un certain nombre de vertus, de concepts
moraux. Quelles
vertus,
par exemple ?
Des vertus d'honnêteté par rapport à soi-même, d'honnêteté par rapport aux autres, de respect de soi-même et de respect des autres, mais aussi par rapport à soi-même, pas simplement par rapport aux autres. Il faut essayer de faire passer un message d'élévation de soi à l'intérieur de la famille.
Qu'est-ce que vous entendez par élévation de soi ?
Eh bien, essayer de faire passer l'idée que on se doit à soi-même, pour acquérir sa dignité d'homme, d'être le plus près de l'exercice des vertus les plus classiques, qu'elles soient religieuses ou républicaines, dans mon cas présent.
Qu'est-ce que vous appelez vertu ?
Bien, l'honnêteté, la bonté, la loyauté, le souci de l'autre, enfin, toutes les vertus habituelles que l'on donne aux autres.
Alors, je recommence. Vincent Gourdon, vous dites que vous aimeriez faire passer ces vertus. Pour vous, ces vertus, quelles sont-elles ? Aujourd'hui, les vertus les plus fondamentales qu'une famille a besoin de vivre.
Tu me poses des questions. Les vertus les plus fondamentales pour une famille.
L'honnêteté ?
L'honnêteté, sans doute.
Le respect ?
Le respect, le souci... Me semble-t-il, le souci de ne pas céder à la facilité.